Parmi les trois lectures qui nous sont proposées ce matin, la seconde que je lirai ensuite se trouve, c'est le texte du jour, l'un des trois textes du jour, dans l'Évangile selon Jean, au tout début de l'Évangile, au deuxième chapitre, Jean 2, les 12 premiers versets, c'est le premier signe de Cana. Mais avant, j'aimerais vous lire un autre texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Et les versets 14 à 17. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient pleurer pendant que le marié est avec eux ? Des jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf, car le morceau tirerait sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans les outres neuves. Et ainsi, le tout se conserve bien. Et donc, dans l'Évangile selon Jean, au deuxième chapitre, où il est aussi question de noces et de vin. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus répondit « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau, changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm. Avec sa mère, ses frères et ses disciples, ils y restèrent quelques jours. L'évangile de Jean déploie, vous le savez, des accents très particuliers. Il suffit, si vous avez un après-midi libre, faites le test, hein, vous lisez les 4 évangiles d'affilée, comme ça, si vous n'avez rien d'autre à faire, mais c'est un bon exercice, une pieuse lecture, vous verrez les différences entre les 3 premiers évangiles et le 4e, il y a ce parler distinct qui se laisse entendre d'ailleurs dès les premières lignes. Je n'ai pas relu le premier chapitre, qui vaut aussi la peine bien sûr. Il y a ce prologue majestueux qui se démarque radicalement du commencement des autres évangiles. Vous savez bien, avec l'irruption dans notre monde d'une parole lumière, ou les deux en même temps, on ne sait pas très bien, qui à la fois éclaire et interpelle d'en haut. Vient ensuite le baptême de Jésus, puis une série d'épisodes propres à la tradition de Jean qu'on ne retrouve pas ailleurs et où l'on assiste à la maturation, la préparation d'un ministère qui n'a au fond pas encore commencé. Le deuxième chapitre de l'évangile de Jean est souvent appelé le premier signe de Cana, qui anticipe un second signe, à Cana également, un peu plus tard au chapitre 4, où Jésus guérit le fils d'un officier tout à fait à la fin du chapitre 4. C'est une fois que ce cycle de préparation est terminé, Jésus est prêt à opérer un certain nombre de choses, et la première chose qu'il fait, c'est cette guérison. Mais entre ces deux signes, on trouve aussi deux entretiens en tête-à-tête, l'un avec Nicodème, où il est question de naître d'en haut. Je ne vous résume pas le passage, vous le relirez. Ça va vous en faire de la lecture, hein, désolé. Et l'autre, entretien en tête-à-tête également, au bord d'un puits, où, avec la Samaritaine, cette femme samaritaine, où il est question de boire une eau qui désaltère pour toujours. Donc, vous voyez, le ton est donné dans l'évangile de Jean. Et ce début d'évangile est aussi fondateur que peuvent l'être chez Luc les récits de l'enfance ou le sermon sur la montagne chez Matthieu, qui pose presque un nouveau décalogue, disent les commentateurs, une nouvelle loi d'amour énoncée telle qu'elle devant les disciples. Ou bien encore, si vous pensez à Luc et à Matthieu, deux généalogies qui disent l'origine extraordinaire du personnage dont on va raconter l'histoire. Jésus est une personne tout à fait exceptionnelle par son origine, et son enseignement est extraordinaire également, sa mission parmi nous également. Voilà pour l'intention de l'auteur en tout cas. Le texte de Jean 2 nous parle bien d'un mariage, mais la fête qui suit le mariage, on n'a pas assisté à la cérémonie, vous savez, de temps en temps, comme ça, on est invité après pour le café ou pour le dessert. Ici, on n'est invité que pour la fête qui suit. On ne nous parle pas des familles, on ne nous les présente pas, on ne nous parle pas des mariés. Tout se passe entre une partie des invités et les responsables de l'intendance, quelque part entre les tables du fond et la cuisine. Donc, le marié est évoqué quand même à la fin du texte. On ne sait pas son nom ni son prénom, on s'adresse à lui. Mais on n'a pas sa réponse. Jean ne nous rapporte aucun propos venant de lui, aucune remarque, aucune réponse. On espérait, nous, que Jésus allait nous éclairer sur le but du mariage, mais là encore, aucun éclaircissement ne viendra de sa part. On ne sait même pas ce qu'il vient y faire là, à part qu'on apprend son simple et seul statut d'invité. Vous savez que la tradition veut que tout conflit soit évité lors d'un mariage, si possible. Tout le monde est prié d'être joyeux, au risque de donner dans l'hypocrisie, les mots acides, les paroles blessantes, les jalousies, les histoires dessous, etc., etc., n'ont pas lieu d'être. Dans un mariage, on est heureux et on se tait. Ou alors, on le fait à mots couverts, mais qu'on n'entende pas les dissonances, les fausses notes. On se met au fond, finalement, près des cuisines, hein ? Ce ne sont pas les mariés qui posent un problème à Jésus. Ils n'interviennent pas ici comme personnages, ils sont annexes, tout juste. C'est l'ordonnancement de la fête qui est perturbé, c'est un chaos que, comme lumière-parole qui entre dans le monde, il s'agit d'ordonner, ou commencer à ordonner. Une nouvelle genèse, si vous préférez. Si Jésus intervient un petit peu à contre-cœur, c'est surtout sur l'injonction de sa mère. Il faut toujours écouter sa maman. Mais c'est peut-être pour qu'il n'y ait aucune ombre au tableau. Dans ce mariage, les mariés ne sont pas nommés, ne font pas partie de ce qui retient notre attention. L'ordonnancement de la fête, simplement, est mal fait. Les personnages de l'évangile que l'on retrouve ici ne sont pas dans leur rôle. La mère de Jésus, qui est la première nommée, enfin désignée parce que Jean ne l'appelle pas Marie, hein, c'est la mère de Jésus. C'est la première qui apparaît et elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Jésus, mis en cause, rabroue sa mère assez sèchement. Si vous êtes féru de grec, vous verrez que l'expression qu'on nous traduit par « qu'y a-t-il entre toi et moi, virgule, femme ?» c'est la même chose qui est utilisée dans un exorcisme où les démons affolés voient arriver Jésus en disant « qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth ?» C'est la même expression. Je me serais méfié à sa place. En tout cas, c'est un peu sec, mais la mère de Jésus, qui n'a pas de prénom, n'en prend pas ombrage. Il rabroue sa mère, bien sûr, il fait un petit miracle. Après, il change l'eau en vin, mais ce miracle était-il bien utile, puisque les gens avaient déjà apparemment assez bu, hein. Jésus le fait d'ailleurs en douce, en catimini, comme s'il avait honte de donner encore un peu plus à boire à des gens déjà bien alcoolisés. Les gens responsables du repas le marié lui-même font une apparition furtive, très très furtive, comme ça, hein, pas plus longue. Ils ne savent rien de ce qui se passe. La mariée n'est même pas mentionnée. On n'a pas son... Ah, c'est pas la reine de la journée, là. Hein. Normalement, c'est elle qui est au centre de l'attention, les photos, etc. Le monsieur aussi, un petit peu. Et on les retrouve en plastique, en haut du gâteau. Mais là, rien du tout. Les choses ne sont pas conformes aux usages. Tout doit donc apparaître dans un désordre dans lequel il faut... ranger un petit peu les choses, remettre un petit peu d'ordre dans le désordre apparent. Dans le mariage dont il est question ici, on note donc qu'il y a du bazar, un chaos, un tohu-bohu, si vous préférez. C'est la mère de Jésus qui s'en aperçoit et qui cherche à sa manière une solution. Il faut lui faire crédit quand même, avant qu'elle se fasse rabrouer sèchement, d'avoir pris la parole pour chercher une solution à ce désordre. Elle apporte ce qu'elle a. Mais Jésus doit aussitôt se substituer à l'époux, chez qui la noce se déroule, en intervenant lui-même à la place de l'époux, dans le service des boissons, ce qui n'est pas très indiqué quand on est invité. On boit ce qu'on... ce qu'on vous donne à boire. Vous ne changez pas le menu. Mais en prenant précisément ce rôle... Le désordre cesse, ou on sent que quelque chose se met en place. Et c'est sans doute à ce constat que le récit veut nous amener, l'arrivée de Jésus sous forme d'une parole lumière, puis incarnée, puis née, puis entourée de ses disciples, dans un ministère naissant, commence déjà à mettre de l'ordre dans le désordre de notre humanité. Pourquoi donc nous avoir raconté alors un mariage où les choses vont de travers ? Et où l'auteur ne nous dit même pas qui se marie avec qui. On ne voit pas pourquoi on nous a raconté cette histoire, à part peut-être pour avoir une toile de fond de ce que Jésus est en train de préparer ou peut-être même de devenir. Si nous avions un esprit mal tourné, ce qu'à Dieu ne plaise, nous dirions que Jésus s'est fait manipuler par sa mère et qu'il a fait un petit miracle contestable que personne n'a remarqué d'ailleurs, à part l'auteur du texte. Mais personne ne dirait une chose pareille. On a l'habitude peut-être de lire ce texte en focalisant notre attention sur le miracle, sur le « ce qui se passe », et on oublie ce qu'il y a d'inhabituel dans le contexte, dans ces missions que des gens acceptent alors qu'ils n'étaient pas là pour ça. C'est peut-être ça le plus important. Apparemment, ce n'est pas le récit de la noce qui est important, ni le miracle d'ailleurs, mais ce sont les circonstances que je viens de pointer. Le mariage reste une fête, et une fête qui se déroule au début d'une aventure à deux. Mais vous le savez, dans la Bible, cette métaphore du couple sert à beaucoup de choses, notamment à imager le couple formé par Dieu et les hommes, et ce couple ne marche pas fort, on peut le dire. L'histoire du Premier Testament nous raconte leur relation orageuse avec des « je pars et je reviens », etc., incessants, des coups de canif dans le contrat. Jésus prend en catimini, en douce, le rôle de l'époux, comme futur époux du peuple de Dieu peut-être. Est-ce pour cela qu'il est si discret ? Est-ce pour cela qu'il faut faire les choses modestement, petitement, pour commencer ? Le récit de ce mariage commence par l'expression « 3 jours après ». Mais 3 jours après quoi ? Puisque c'est un début. Nous savons bien que le 3e jour, et qui n'est pas propre à Jean, vous le trouverez ailleurs dans les évangiles, est évidemment le jour du relèvement, le jour de la résurrection. Mais comme ce sera aussi le cas à la résurrection, la mère de Jésus, que Jean, encore une fois, ne nomme pas, sera aussi là, à ce moment-là. Et là, toujours jouer un rôle double, à la fois mère de Jésus, et puis c'est tout, mais aussi, chez les commentateurs notamment, pas dans notre texte, figure de l'Église qu'elle anticipe. Quand elle dit « ils n'ont plus de vin », elle signifie que, bien qu'enivrés de tout ce que Dieu a l'habitude de leur donner depuis toujours, les hommes n'ont toujours pas compris ce que Dieu attend d'eux. Elle s'efforce donc de rendre cet amour efficace pour une fois. Et Jésus est peut-être le premier, après sa mère, à remarquer que les hommes aspirent à un autre vin, un vin nouveau, comme je l'ai cité aussi dans cet autre passage où il s'agit d'un vin nouveau qui est un vin qui fermente encore et pour lequel il faut des outres solides, nouvelles, sinon au moment de la fermentation on perd et le contenant et le contenu. Les hommes aspirent à autre chose de nouveau et c'est Jésus qui se désigne, se met en avant à ce moment-là pour leur offrir ce vin partagé. Il sera vraiment partagé au soir du Vendredi Saint, on le sait, ou du jeudi plutôt, quand il ouvrira l'éternité à cette Église en devenir. Le vin qui fait défaut, c'est la joie du royaume encore à venir, parce que le vin est une boisson qui réjouit alors que l'eau se contente de désaltérer. La résurrection ne prend signification profonde que si Jésus la donne en se donnant lui-même, et c'est ce qu'il fera. Tout cela est déjà présent, là, dans ce vin à venir, ce vin nouveau. Jésus, en se retournant vers sa mère, la rabroue peut-être, mais il l'interroge peut-être aussi sur le sérieux de son espérance. C'est pour cela qu'on sent les reproches ou une certaine supériorité dans le ton de la voix ou quelque chose qui sonne comme un défi. Il y aurait donc ici, peut-être, un peu plus que simplement « de quoi te mêles-tu ?» On sent presque un défi comme « es-tu vraiment à la hauteur ?» Ou mieux, es-tu vraiment à ma hauteur ? Question qui viendra pour les disciples ailleurs que chez Jean et sous une autre forme. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Une coupe de vin, évidemment. Eh oui ! Si la mère de Jésus est la figure d'une église naissante, parce que on en a fait une figure, une préfiguration, un modèle de quelque chose. Soit. A-t-elle vraiment compris que Jésus est venu pour faire toute chose nouvelle, comme ces outres neuves, avec ce vin neuf? 6 jars de vin nouveau suffiront-elles à apaiser nos doutes et à fortifier notre espérance? Parce qu'il n'y en a que 6. Eh bien non, malheureusement. Les 6 jars à nouveau pleines, 100 litres quand même, donc 100 kilos. Un kilo d'eau égale 1 litre, je ne me trompe pas. Il n'y a que 6 jars et pas 7. Comment pourrait s'y attendre dans un langage symbolique? 6 jars seulement. Ça veut dire que la création n'est toujours pas achevée. Ce sera le 7e jour, cette 7e jarre. Il faudra attendre que la 7e jarre nous soit offerte, que le 7e jour ait commencé, pour que l'union du Christ avec son Église puisse être célébrée dans une harmonie enfin retrouvée. C'est ce que Jean, à sa manière, essaie de nous dire. Les choses commençaient dans le désordre, dans le chaos, le tohu-bohu, sont en train de rentrer dans l'ordre, petit à petit, de se mettre en place. La création continue à évoluer vers sa perfection, qui se manifestera quand les serviteurs apporteront la 7e jarre de vin nouveau, parce qu'elle va venir un jour ou l'autre. Et les serviteurs qui la préparent, qui sont-ils? Mais c'est nous, bien sûr. Nous préparons par nos actions, par notre témoignage, par notre confiance, un royaume qui vient. La 7e jarre, ce sera à nous de l'apporter, et l'apostrophe, de la mener à table. En étudiant ce texte, il y a quelques semaines, dans le groupe d'études bibliques de Bretigny, l'une des personnes présentes a fait remarquer que, à Cana, on a perdu les eaux. Belle expression et juste expression qui dit bien que on assiste là davantage à une naissance qu'à un mariage. Le mariage n'est pas très important, c'est la naissance, c'est ce qui est en train de naître à ce moment-là, en train de s'accoucher, qui est important. Eh oui, à Cana, on a perdu les eaux. La naissance d'une église qui veut être à la hauteur et qui fait ce qu'elle peut pour rendre toute chose nouvelle. Amen.